avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, où en sont les couples mixtes? Ils s'aiment, mais ils ne partagent pas la même culture, la même religion ou encore la même couleur de peau. Aujourd'hui, en 2021, les mariages mixtes sont loin d'être si simples. Aux États-Unis, le couple Kamala Harris, vice-présidente, et son mari Doug Emhoff cachent une réalité taboue. Et on va en parler avec la chercheuse Cécile Coquemococo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le studio. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin et vous avez suivi pendant plusieurs années 40 couples interraciaux en Alabama, dans le sud des États-Unis et en France. Vous allez nous en parler. Également avec nous, Peggy Caperet, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue, spécialiste de l'interculturel et vous travaillez beaucoup avec des couples, des familles. On entendra aussi le témoignage d'une Française, Anaëlle, en couple avec son compagnon de nationalité comorienne. Ils tentent de se marier depuis 2 ans. À mes côtés, Penaï Traoré, journaliste à RFI. Bonjour Penaï.
Bonjour Emmanuel.
Vous allez nous livrer votre réflexion personnelle sur le sujet des couples mixtes. Et quant à vous, les voisins et les voisines, bien sûr, vous avez la parole. Entre barrières familiales, incompréhension sociale, tracasseries administratives, on attend vos témoignages. Dites-nous aussi comment vous avez bâti des fondations communes dans l'altérité. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques témoignages d'auditeurs. Samuel, je suis mexicain, marié à une Française. Dans un couple mixte, on apprend des choses chaque jour. J'apprends le français, elle a appris l'espagnol. Et maintenant, on se demande comment éduquer notre bébé qui arrivera fin août. Anna, sénégalaise... Anna, je crois qu'elle a posté un message WhatsApp qu'on va entendre tout à l'heure. Jacques Amboujimaï, en RDC, nous dit « Moi, j'ai toujours rêvé d'une étrangère avec laquelle je ne partagerai pas les mêmes origines ou la même culture. » Difficile de réaliser ce rêve en Afrique car les parents te déconseillent de le faire. Tes amis t'exposent toujours le côté négatif des filles de tel ou tel pays. Je pense que la pression sociale, nous dit Jacques, face aux couples mixtes ne cessera jamais à cause de nos proches qui pensent à notre culture, à nos coutumes. Abderrahmane est à Bobo-Dioulasso, Burkina. Le couple mixte est strictement interdit dans ma famille et je trouve cette décision parfaitement mature, parce que beaucoup de couples se séparent à cause de leurs convictions religieuses, sociétales, culturelles différentes. Pour moi, le couple mixte, c'est une perte de temps et d'énergie inutile. Écoutez aussi le témoignage de cet auditeur au Tchad.
Bonjour, je suis une auditeur Archiduc Théodore. Je vous appelle de N'Djamena au Tchad. Moi, par exemple, j'ai aimé une fille protestante que voilà, j'ai fini par aimer jusqu'à maintenant. Malgré que moi, je suis catholique, et nous voyons l'avenir et nous nous sommes dit, si jamais nous unissons nos forces communes, nous pouvons être forts et avoir des enfants qui vont être forts. L'essentiel, c'est notre avenir, c'est chercher de l'emploi, c'est s'unir pour construire ensemble notre futur. Merci.
Voilà, vous l'avez entendu, des témoignages, des points de vue extrêmement différents. Vous continuez de nous appeler. Surtout, n'attendez pas la fin de l'émission pour vous manifester pendant l'émission, en direct. Et surtout, on aimerait entendre aussi des voisines au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et tout de suite, je donne la parole à ma voisine, journaliste, dans le studio de RFI, Penaï Traoré. Les mariages mixtes, bon, c'est vieux comme le monde.
Oui.
Vous avez été très inspirée par une histoire d'amour entre un homme noir, une femme blanche, qui a pris une tournure très politique, finalement, dans les années 50 du siècle dernier.
Oui, Emmanuel, c'est l'histoire de Seretse Khama et Ruth Williams. Ils ont prouvé que l'amour était plus fort que le racisme. Lui, étudiant héritier du royaume du Bechuanaland, l'actuel Botswana, et elle est fille d'un ancien capitaine de l'armée britannique. Ils se sont rencontrés à Londres en 1947. Mais tout les sépare, il est noir, elle est blanche. Et quand il termine ses études à l'université d'Oxford, Seretse Khama est rappelé au pays pour assurer ses fonctions de chef des Bamangwato, l'une des plus importantes communautés de son pays. Alors évidemment, il veut amener avec lui sa bien-aimée pour fonder sa famille. Voilà, ce qui sera un peu plus difficile. Le couple se marie civilement, mais ils vont se heurter aux autorités coloniales britanniques et au régime apartheid en Afrique du Sud qui interdit le mariage mixte. Leur histoire va se transformer met en une crise diplomatique, mais ils finissent par imposer leur amour. Cependant, le couple est interdit de regagner le Botswana. Alors ce veto, il sera levé en 1956. Cyril Sekamal retourne chez lui quand même, mais il renonce à son titre de chef. Il finit par se reconvertir en politique. Il fonde le Parti démocratique du Bechuanaland. Et lorsque le pays accède à l'indépendance en 1966, il en devient le premier président. Et Ruth Williams sera la première dame blanche jusqu'en 1980 du Botswana, Emmanuel.
Ouais, bah, les temps ont bien changé, parce que les couples présidentiels aussi, il suffit de regarder monsieur et madame Ouattara, monsieur et madame Bongo. Et comme le dit un de mes collègues, au bar du Ritz, il n'y a pas de racisme.
Eh ben, oui, Emmanuel, c'est à moi. Il y a d'autres types de couples mixtes qui ont encore du mal à se faire accepter. Il s'agit de mariages entre certaines ethnies ou certains groupes sociaux en Afrique de l'Ouest, par exemple entre les forgerons et les peuls, entre les dogons et les bozos, entre les griots et les forgerons ou entre les bambara et les griots. Alors pourquoi? Parce que c'est une question de hiérarchie. Certains groupes comme les griots étant considérés comme des orons, c'est-à-dire des nobles, et les forgerons considérés comme des nyamakala, entendez, une caste inférieure qui est au service des nobles. Alors ce sont ces couples-là qui aujourd'hui sont interdits de se marier quand ils tombent amoureux.
Donc des traditions qui pèsent encore largement sur ces couples-là.
Oui, ces derniers voient leur rêve de s'unir brisé par des traditions que leurs parents se vertuent à reproduire depuis des siècles. Il est même dit que quand un couple passe outre cette interdiction et se marie quand même, une malédiction s'abattra sur lui. En tout cas, il fera face à des faits occultes inexpliqués dans la vie. Et comme on ne sait pas ce qui pourrait advenir, alors la plupart renoncent à se marier. Comment ne pas aller à l'encontre des traditions tout en s'ouvrant aux autres? Amadou Ampateba affirme dans son ouvrage Ndiedo Dewal, mère de la calamité, qu'au départ, les interdits de mariage n'ont en général rien à voir avec les notions de supériorité ou d'infériorité, de caste ou de race. Il s'agit soit de respecter des alliances traditionnelles, comme le cas entre peuls et forgerons, soit de ne pas mélanger des forces qui ne doivent pas l'être. Au-delà de cette réflexion, je fais quand même un constat, c'est que les familles refusent ces unions, mais acceptent les mariages entre blancs et noirs. Par exemple, si moi, étant de culture musulmane, je présente à mes parents un fiancé noir et catholique, voilà, cela fera grincer des dents dans ma famille et on me demandera tout de suite s'il prie. Cela veut dire, est-ce qu'il est musulman?
Oui. Et cela, c'est une question élégante. Ouais.
Voilà, cela me rappelle des conversations avec ma mère quand je l'appelle. Alors, allô, bonjour maman, bonjour ma fille, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Ça va bien, rien de particulier. En tout cas, nous ne pouvons que faire des bénédictions. Que Dieu te protège, qu'il mette sur ton chemin une bonne personne. Et entendez par là, une bonne personne, ça veut dire quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui est musulman comme nous. Elle ne le dit pas, voilà, mais on sous-entend, on sait déjà, les noms disent que ça signifie. Par contre, si je ramène un blanc, là, il est toléré. Alors, si en revanche, certains footballeurs en couple avec des femmes blanches ou non noires sont parfois critiqués sur les réseaux sociaux, ils sont accusés de rejeter les filles noires par un souci d'apparence et par le besoin de montrer qu'ils ont réussi dans la vie.
Ouais, c'est compliqué, hein, quand l'amour est sur le feu du soupçon. Appelez-nous en tout cas pour réagir, pour témoigner si vous vivez une situation de couple mixte. L'altérité est de l'autre côté du jardin, hein, chez les voisins. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Cécile Coquet-Mokoko, je vous ai vu acquiescer quand Penaï Traoré évoquait le mauvais œil.
Oui, elle a entièrement raison. Effectivement, on a une vision du monde qui est extrêmement complexe et qui est régie par une croyance dans des énergies qui nous dépassent tous et dans lesquelles s'inscrit la famille élargie. Et lorsque des couples ont des problèmes de conception en particulier, il est très difficile de rejeter comme des superstitions totalement arriérées le discours de la belle famille qui vient vous dire « mais comment ça se fait que vous n'arrivez pas à concevoir des enfants ?» La question de la fécondité reste absolument essentielle. Et effectivement, il ne s'agit pas de conception étroitement raciste, c'est une vision du monde qui a totalement sa cohérence. Donc lorsque des enquêtés vous disent que c'est une perte de temps, je peux comprendre d'où cela vient, parce que ça vient
d'un auditeur qui disait ça, l'union mixte, ça va à sa perte, donc c'est une perte de temps.
C'est en fait ce qui est dit en creux par cette personne qui nous appelait du tchat, si je me souviens bien, c'est que sa première loyauté va à ses parents. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ce que les parents espèrent pour leurs enfants. Ils veulent les protéger selon leur perception à eux.
Peggy Caperet, vous en tant que psychologue, la question de la loyauté aux parents, elle revient beaucoup pour les couples qui viennent vous consulter.
Tout à fait, c'est vraiment la question principale, comment s'autoriser à aller à l'encontre de ce que les parents attendent de nous, comment s'autoriser à menacer l'intégrité du groupe culturel. Voilà, c'est vraiment la question principale et c'est vraiment une lutte qui peut amener certains couples à rester des années dans une vie cachée. Avant de pouvoir l'annoncer à leurs parents.
En tout cas, pas vraiment officialisé.
Exactement.
Ouais, parce que officialisé, ça veut dire que le choix est pérenne et qu'on a la peur de montrer qu'on annule d'une certaine manière le bagage traditionnel éducatif de la famille, hein, que ça remet en cause ce qu'on nous a inculqué.
Tout à fait. C'est effectivement ne plus être vu ensuite comme... Enfin, il y a vraiment cette question chez les personnes qui viennent me voir de se dire je ne vais pas être... On ne va plus me voir comme une personne du groupe. Je vais être jetée. Certaines fois, ils ont fait des tentatives préalables de parler de ce couple, d'un couple avec quelqu'un qui ne serait pas de la même culture. Donc, une annonce qui s'est mal passée... Une discussion, on va dire, plutôt, qui s'est mal passée et donc qui fait qu'après, il va y avoir effectivement d'énormes réticences à s'exclure, on peut presque dire ça, du groupe en amenant une bombe, en fait.
Les barrières les plus compliquées, quelles sont-elles dans ce que vous voyez ?
C'est effectivement cette...
La religion,
l'éducation des enfants, les attentes... Les attentes par rapport à ce qui devrait être fait. Il y a des situations où effectivement... Alors, la religion, je ne sais pas si je dirais que c'est le principal. Parce qu'en fait, le couple, les deux personnes vont être dans quelque chose, dans une construction, en fait, d'une identité conjugale à eux. Et effectivement, il y a une ouverture. Moi, je remarque que c'est souvent des gens qui ont voyagé ou ont vécu dans de nombreux pays. Donc il y a cette ouverture qui fait que le différent n'est pas une menace. Par contre, amener cette différence dans la famille...
Qui, elle, n'a pas voyagé, par exemple.
Voilà.
Cécile Coquet-Mokoko, quelle est aujourd'hui la réalité chiffrée des mariages mixtes en France, aux États-Unis ? Est-ce qu'on a une idée ? Et est-ce que ces chiffres sont en progression du fait de la mondialisation qui va très vite ou pas ?
Alors, je voudrais juste ajouter une toute petite remarque à ce qui vient d'être très bien dit par ma collègue. Plus que la religion, je dirais que c'est la réputation de la famille. Parce que si vous êtes catholique et blanche et que vous amenez un catholique béninois, ce n'est pas un problème de religion incompatible. Ça va vraiment être ce que vont dire les gens, littéralement, le qu'en dira-t-on. Et là, Français et Africains et Antillais se retrouvent exactement au même plan. Comment est-ce que ce que notre enfant a fait, les valeurs que nous lui avons inculquées, se reflètent sur la perception qu'ont les gens de notre famille ? Maintenant, pour répondre à votre question, c'est évidemment compliqué en France, étant donné l'interdiction de statistiques ethniques, de se faire une idée... de ce qu'on appelle les couples mixtes, qui est déjà une
oui, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre.
Une formulation étrange en soi, puisque un homme et une femme, ça introduit déjà de la mixité. Mais on parle de 14% de couples, mais on désigne par là voilà, des personnes qui ont épousé des ressortissants étrangers. Or, souvent, c'est pour épouser quelqu'un du village, comme on dirait en Afrique, ou du bled en Afrique du Nord. Donc, c'est plutôt une tentative de rapprochement et de pacification de la famille, d'apaisement des parents.
Par exemple, une Française d'origine algérienne qui épouserait un Algérien et qui ou ça peut être l'inverse d'ailleurs plutôt, hein, un Français d'origine algérienne qui va chercher une épouse en Algérie et qui va ensuite opérer un rapprochement familial, effectivement ça pourrait être comptabilisé dans les mariages mixtes.
Tout à fait, ça l'est et ça peut également être dans l'autre sens, culturellement, on va proposer un cousin
c'est
pour
ça,
rester
c'est...
dans la famille.
Et bien sûr c'est tout sauf un mariage mixte en réalité.
Exactement, culturellement oui.
C'est un mariage assez homogène culturellement, encore que. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'on entend par mariage interraciaux ?
On entend déjà, surtout quand on parle de race aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, qui n'est pas si compliqué, c'est qu'il s'agit de savoir qui est blanc, qui peut devenir blanc, qui ne doit surtout jamais devenir blanc. Et c'est là qu'on touche en fait les racines du problème. Le métissage aux États-Unis a toujours existé. Il y a eu de l'esclavage, on ne va pas se voiler la face. Donc le métissage a été pratiqué très très activement par les planteurs. Mais là où est le nœud du problème, c'est qu'ils ne donnaient à leurs enfants aucun droit. sauf exception, lorsque des planteurs étaient réellement, je ne dirais pas amoureux, parce que c'est toujours compliqué de plaquer des termes comme ça sur des siècles passés où on n'a que des archives.
Et des relations de maître à esclave.
Voilà, des relations de maître à esclave. Tout récemment, j'ai une de mes anciennes étudiantes noires américaines qui vient de découvrir, grâce au test ADN, que son arrière-arrière-grand-père était un homme blanc, qui a libéré son arrière-arrière-grand-mère par testament. Et quand je lui ai demandé, a-t-il prévu quoi que ce soit de financier pour aider cette femme à survivre à son décès, elle m'a dit, bien sûr que non. Et pourtant, il la mentionne 9 fois sur les 13 occurrences de son testament.
Alors, vous avez suivi des couples interraciaux aux États-Unis, mais dans un État du Sud, l'Alabama, qui est encore très marqué par la ségrégation.
Oui, effectivement. Cet État, c'est le dernier, je l'ai choisi parce que c'est le dernier qui avait dans sa constitution une clause d'anti-mariage interracial qui permettait au juge de sanctionner d'une période de 2 à 7 ans de pénitencier les personnes qui seraient dans des unions interraciales. D'ailleurs, ça a été imité par l'Afrique du Sud lorsque le régime a mis en place la politique d'apartheid. Et on a été confrontés, moi et ma famille, à des attitudes de rejet, aussi bien de la part des Noirs américains que des Blancs américains. Et j'ai été surprise de voir à quel point cette loyauté était politique, alors même que les étudiants auxquels j'avais affaire, 95% de mes étudiants étaient Noirs, ces étudiants avaient dans leur famille des personnes qui avaient lutté dans le mouvement des droits civiques. Donc j'ai été confrontée à cette contradiction de l'héritage du mouvement des droits civiques.
Les mariages interraciaux en Alabama, pour parler concrètement, ne sont pas interdits, mais finalement depuis seulement 2000, depuis une vingtaine d'années.
En réalité, cette clause était frappée d'anticonstitutionnalité depuis 1967. Vous vous souvenez du très beau film Loving sur les époux ainsi nommés.
C'était... À l'échelle du pays.
Voilà, exactement. Et donc, cette décision de la Cour suprême qui remonte à 1967 frappait d'anticonstitutionnalité toutes les clauses de constitution d'État qui interdisaient et punissaient les unions interraciales.
Mais aujourd'hui en Alabama, donc depuis les années, même si l'Alabama a autorisé, enfin en tout cas n'a pas appliqué cette abrogation, l'a appliquée très tardivement, depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas de problème légal du mariage interracial. Il y a donc un problème social encore ?
Oui, en fait, il s'agissait simplement en l'an 2000 de proposer aux citoyens d'Alabama un référendum disant acceptez-vous que l'on supprime à jamais de notre Constitution, donc symboliquement, cette clause qui interdisait ces mariages? Il n'y a eu que 60% de réponses positives. Donc ça pèse quand même...
Ça veut dire que 40% des habitants de l'Alabama estimaient que le mariage interracial n'avait pas lieu d'être.
Oui, qu'il aurait fallu, ne serait-ce que pour marquer les choses, conserver cette clause caduque dans la Constitution de l'État.
Mais aujourd'hui, à l'échelle du pays, les mariages interraciaux, ça représente combien des unions ?
Les chiffres que j'ai ne datent pas du dernier recensement de 2020 parce qu'ils sont encore en train d'être dépouillés. Les chiffres que je vais vous proposer datent de 2018 et je me suis centré uniquement sur les mariages blancs-noirs. Parce qu'on peut appeler aussi couple interracial, ce qui est ironique, un couple composé d'une personne d'origine latino-américaine, comme la personne qui nous disait qu'elle était mexicaine. Donc parfois, ils peuvent être considérés comme blancs, mais dans les faits, ils ne sont pas traités comme des blancs. Donc on retrouve dans ces chiffres 8,6% d'unions en 2018 où le mari était noir. Donc ce sont les unions qui sont majoritaires dans la configuration de couples
moins de 9%.
Oui, 8,6%.
C'est très peu.
390 000 couples. Et là où l'épouse est noire, on a seulement 3,9% avec 168 000 couples. Et ça, c'est vraiment propre au terrain américain, états-unien, je devrais dire, parce que sur ma propre étude, j'ai remarqué qu'au contraire, 60% des couples étaient composés d'une femme noire.
On est d'accord qu'on parle de couples interraciaux, mais où se loge l'altérité ? Même nationalité, même langue, même religion, souvent.
Oui, pour les
où
Antillais.
Où se loge l'altérité ?
Pour les Antillais, tout
la,
à fait.
C'est la couleur de peau, uniquement ?
C'est la couleur de peau et tout ce qu'elle implique. Elle implique le regard de l'autre, elle implique la façon de faire famille ou non, elle implique le rapport aux beaux-parents, les sensibilités qui sont aménagées, des deux côtés d'ailleurs. Elle implique tout ce qui n'est pas dit dans l'histoire, une histoire souvent douloureuse, d'esclavagisme plus ou moins assumé, de colonisation plus ou moins assumée.
Un héritage différent. Vous nous appelez, bien sûr, pour nous parler de votre situation, si vous vivez en couple mixte, au 33 7 64 45 51 41. On accueille un auditeur qui nous appelle Bourouma et Tabamako. Bonjour Bourouma.
Bonjour Emmanuel, bonjour.
Bourouma, vous avez 21 ans et vous êtes, vous êtes très amoureux d'une jeune fille qui n'a pas la même religion que vous. C'est bien ça, expliquez-nous, Bourouma.
Oui, bien sûr. Et j'ai rencontré cette difficulté quand je faisais le lycée. Et je suis tombé d'amoureux à une jeune fille qui m'aimait et moi aussi, je l'aimais. Et à cause de la pression de nos parents, on s'est séparés. Mm-hmm. Et enfin, on a repris après la Covid.
Ah, d'accord.
J'attends.
Oui. Alors, concrètement, vous êtes Paul musulman, c'est ça?
Oui, effectivement, oui.
Et la jeune fille que vous aimez?
Le Bamara est chrétienne protestante.
Chrétienne protestante. Et vous vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble là, depuis la pandémie. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Vous n'êtes pas marié, hein, c'est bien ça? Vous n'avez pas fondé de famille encore?
Non, pas quoi. Bon, je suis pas. Actuellement, quand même, quand on a repris, j'ai décidé d'avoir d'abord mon autonomie afin de le marier. Quand même, je prétends le marier.
Mm-hmm. Quelle est la pression familiale que vous subissez? C'est plutôt votre fiancé qui subit une pression familiale ou vous-même?
Non, nous-mêmes. Nous subissons les mêmes problèmes. C'est-à-dire, oui, tu l'as dit.
Oui.
Nous subissons la même pression.
Quelle pression vous subissez? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Oui, c'est-à-dire nos parents nous disent que ce n'est pas possible que nous soyons ensemble, c'est-à-dire que nous n'aurons pas le même système religieux. Donc, ils s'impliquent à ces niveaux.
Et vous, comment vous souhaitez vous construire par rapport à la pression familiale? C'est un problème pour vous, cette pression? Ou vous avez dit, j'ai décidé de prendre une décision vous voulez vous marier, hein, c'est bien ça, Bourouma. Donc, vous souhaitez vous émanciper de votre famille, d'une certaine manière? Ça reviendrait à une sorte de rupture familiale ou pas?
Si on s'est fait comprendre, on ne sera pas quand même une rupture, ça m'a pensé. Et je sais qu'avec le braquage culturel, c'est très important. Il faut que les gens s'embrassent. C'est ce que moi, j'aime plutôt. Mais le fait de détester la religion d'autrui et en même temps pour essayer de s'augmenter, c'est-à-dire de faire implanter ta religion en disant que c'est ma religion qui vient de l'autre, c'est pas là que je suis contre.
Ouais.
Là, il faut s'accepter, il faut accepter les religions, c'est-à-dire il faut les gens qui s'aiment, il faut les accepter dans leur continuité.
C'est pas simple, hein, votre histoire pédicapeurée. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Bourouma?
C'est vrai que par rapport aux croyances religieuses, effectivement, on peut se demander si effectivement là il y a un rejet et voilà. À Bourouma, en fait, moi je lui dirais que effectivement, il se pose la question. Enfin, malgré l'opposition de la famille, ils se sont remis ensemble. Donc c'est effectivement à eux de construire quelque chose, peut-être de montrer quelque chose qui est possible. Est-ce que sa famille a rencontré son ami ou pas? Est-ce que c'est en parlant qu'il y a eu une opposition?
Est-ce que vos parents ont rencontré votre fiancé?
Mes parents?
Oui.
Ils ont une famille.
Ils ont rencontré votre fiancé ou pas, Bourouma?
Ils ont rencontré ma fiancée.
D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à vous?
C'est-à-dire que ces deux familles s'opposent. Ils disent que ce n'est pas possible que nous soyons ensemble. Et moi-même, ma famille a décidé de me donner une fille, c'est-à-dire dans la religion musulmane. J'ai dit que je ne l'aime pas. Je l'aime de ce qui me veut.
En fait, vous êtes un peu dépossédé de votre histoire d'amour à tous les deux, hein, finalement. Si ce sont deux familles qui s'affrontent derrière, une famille Bambara chrétienne, une famille Peul musulmane.
Oui.
Oui. Parce qu'en fait, là, c'est la question de savoir effectivement, est-ce que l'amour, là, peut être plus fort, peut permettre de construire quelque chose qui va permettre d'être fort ensemble, comme disait un autre auditeur avant, être fort ensemble et de construire quelque chose de nouveau qui sera accepté par la suite, en fait.
Et généralement, l'argument des parents aussi, c'est de dire que quand vous aurez des enfants, comment vous allez les éduquer? Voilà, sous les principes de la religion musulmane ou sous les principes de la chrétienté. Bon, ça se décide dans le couple, mais généralement, les parents, ils mettent en avant aussi cet argument-là pour dissuader le couple d'aller s'unir.
Et toute la question aussi du couple, c'est de se voir comme deux entités personnelles, mais on est aussi le fruit d'une communauté. Et sur le continent africain, c'est quand même la communauté qui a le
dessus. C'est des familles qui
s'unissent. Tout à fait, hein. Merci en tout cas, Bourouma, de nous avoir appelés. C'est pas simple de parler de son histoire comme ça à l'antenne. Et vous pouvez bien sûr continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Je voudrais qu'on donne la parole à une Française qui nous appelle. Est-ce qu'on l'a au téléphone? Oui, Anaëlle est en ligne avec nous. Bonjour Anaëlle.
Bonjour.
Vous formez un couple franco-comorien avec votre compagnon depuis 2017 et vous tentez de vous marier depuis 2019. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, il se passe que se marier avec un étranger, c'est pas si simple que ça et qu'il y a beaucoup de paperasse à faire au consulat, etc. Et en fait, ça bloque dans plein de points petit à petit. Et du coup, ça prend du temps.
Vous avez fait les premières démarches au consulat de France aux Comores ?
C'est ça. On a commencé en août 2019.
Donc avant la pandémie.
Rendez-vous, avant la pandémie, oui.
Ensuite, des démarches au consulat à Dakar, parce que votre compagnon habite Dakar. Entre-temps, la pandémie a compliqué considérablement encore les procédures.
C'est ça. En fait, c'était déjà compliqué aux Comores, ça prenait du temps, il y a des choses qui ne marchaient pas, on ne comprenait pas trop pourquoi. Et puis finalement, on nous a proposé un visa touristique, c'était en janvier 2020. Donc on a préparé le dossier et en fait, on devait le déposer pour juin, juillet, août 2020. Et en fait, bon, il y a eu la pandémie. Donc ensuite, on a appris qu'il y avait des histoires de laissez-passer pour les couples binationaux. Il y en a quelques-uns qui ont été délivrés cet été, mais très peu en Afrique, il me semble. On a donc recontacté et là, on nous a dit « faites un laissez-passer pour mariage », donc il fallait publier les bans du mariage, etc., ce qu'on a fait. Et puis entre-temps, Mouktar a dû déménager au Sénégal pour aller faire des études parce qu'en Comore, c'était un peu compliqué. Mmh. Et vu qu'on ne savait pas du coup si on aurait se laissé passer, enfin, à notre connaissance, personne ne l'avait eu, on s'est dit, bah, c'est tout, on privilégie autre chose. Moi, je pensais pouvoir aller vivre un peu au Sénégal en attendant. Et voilà. En arrivant au Sénégal, j'ai tout de suite contacté le consulat de Dakar en leur expliquant la situation. C'était en décembre, c'était 1er décembre 2020 et on avait une date de mariage pour le 27 décembre. Ils nous ont dit d'envoyer nos documents, finalement pas de nouvelles. La date de mariage est passée, j'ai relancé, on nous a dit bah, en fait il faut passer par VFS, c'est obligatoire, c'est la plateforme qui prend les visas, etc. Donc on avait un rendez-vous pour déposer le dossier, donc on refait tous les papiers à chaque fois, acte de naissance qui doivent être à jour, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent et il faut toujours penser à être à jour dans tous les papiers. Donc on avait une date pour déposer le dossier le 16 février qu'on nous annule 3 jours avant.
Sur quel motif?
Pourquoi? Bah, à cause du Covid, les visas pour mariage étaient annulés. Mmh. Moi, je suis allée au Sénégal, je suis arrivée le 11 février. Du coup, je pensais être là pour l'aider un peu dans la démarche et tout. Enfin, donc, voilà. Et en fait, il y a eu les visas pour mariage étaient annulés partout dans le monde. Et on est énormément de couples binationaux. Enfin, énormément.
Alors, il y a 2000 couples. Ça, mais... 2000 couples ont déposé une requête auprès du Conseil d'État pour demander le dégel du visa de mariage pour permettre le mariage sur le territoire français à titre dérogatoire. Hein, c'est bien ça?
C'est ça, exactement. Mmh. Exactement. Et du coup, ça a réouvert genre mi-avril.
Alors, maintenant, ça devrait se débloquer pour vous, Anaëlle.
Eh bien, on a déposé notre demande de visa le 22 avril et ça a été refusé le 26 avril, soit 2 ou 3 jours ouvrés plus tard. Voilà, pour des motifs qu'on ne comprend pas très bien, qui ne sont pas très explicites. Pour nous, c'est toujours flou. Enfin, voilà, justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. et des doutes raisonnables sur la fiabilité et l'authenticité des documents donnés.
En gros,
donc j'ai tout de suite écrit.
Pour parler clairement, on soupçonne un mariage gris, c'est ça, ce qu'on appelle un mariage gris.
Ben je sais pas parce que ils ont pas coché la case doute sur la relation. Ils auraient pu, ils l'ont pas fait. En même temps, on a donné tellement de preuves de notre relation et c'est tellement pas possible qu'ils ont coché d'autres cases. Donc, je suis pas sûre que ce soit ça, mais du coup, je le réécris tout de suite. En plus, j'étais encore au Sénégal en disant, est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous avec le consul ou bien quelqu'un d'autre? Moi, je veux bien venir.
Vous avez écrit à plusieurs personnalités politiques au plus haut niveau de l'État, notamment au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous avez l'impression, filigrane, que la France vous fait un reproche dans votre choix?
Franchement, je sais pas. En tout cas, je me sens juste pas aidée. Je peux pas dire qu'il me fasse un reproche puisqu'il me parle pas. Donc, mais en tout cas, on se sent pas du tout ni aidé ni écouté. Enfin, ma maman qui est hyper impliquée aussi, que ça rend triste de pas pouvoir me voir avec mon amoureux, a écrit aussi à Macron, à sa femme. Enfin, notre entourage essaye de nous aider au maximum.
Dans votre cas, c'est la France. Oui, l'association Banque Publique. Dans votre cas, vous avez l'impression que votre droit fondamental à vivre ensemble n'est pas respecté?
Oui, je ne peux pas dire non.
Et psychiquement, comment vous allez aujourd'hui?
Vraiment pas bien. J'ai tenu pendant longtemps. J'avoue que le refus du visa là, fin avril, c'était un peu le coup de massue. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on allait rentrer ensemble au mois de mai et qu'on se marierait, que ce serait cool, puis qu'il repartirait après comme prévu. Enfin voilà, mais qu'on aurait un petit temps l'été ensemble. Et du coup, là, je suis rentrée. Je suis médecin généraliste. Travailler dans ces conditions, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, j'ai une charge mentale de dingue entre le Covid où il faut toujours être au taquet et tous ces papiers où il faut toujours être au taquet. Et en plus, se battre contre quoi, on ne sait pas trop, et comment, on ne sait pas trop. Enfin,
voilà,
j'en suis à un point où j'arrive plus à travailler, en fait.
Ouais. Anaël, merci en tout cas de votre témoignage. Les affres d'un couple mixte impossible, franco-comorien, Cécile Coquemococo.
Non, moi je ne l'appellerai pas impossible, je vous dirais tenez bon. Ça vous rendra plus fort tous les deux parce que vous saurez que vous revenez de loin. Et vous revenez déjà de loin, donc ça consolide très très puissamment les couples, d'après non seulement mon expérience personnelle, mais d'autres expériences aussi. Et préparez-vous à des questions... assez indiscrète lorsqu'il s'agira de demander la naturalisation, du style êtes-vous certaine que votre conjoint n'a pas une femme et des enfants au pays, qui ne vous a pas menti? Ce ne sera pas la peine de revenir pleurer une fois qu'il aura la nationalité, parce qu'on ne pourra plus rien faire.
C'est ce qu'on vous a dit.
Tout à fait, en 2003, lorsque rétroactivement, après le mariage, nous avons demandé la naturalisation de mon conjoint. Et on vous demandera également si vous avez des amis français qui parlent français, si vous avez une vie associative, quelle langue vous parlez à la maison. Alors moi, j'avais un esprit, je me suis permis le privilège de faire entendre mon esprit un peu moqueur en disant que j'apprenais le lingala pour pouvoir communiquer avec ma belle-famille. Mais c'est vrai qu'il y a un découragement méthodique de ces couples. Donc moi, je vous dirais, vous avez bien fait d'appeler RFI. Continuez à exposer votre cas aux médias et bonne chance à tous les deux de tout cœur.
Oui, voilà. Merci beaucoup.
Voilà les étapes du parcours du combattant décrit par Cécile Coquemococo. Peggy Capere.
Je voudrais vraiment rebondir. C'est vraiment un empêchement systématique qui est posé là. Sans accompagnement, effectivement, on est perdu parce que si on ne sait pas contre quoi on se bat, on n'a pas moyen de faire face. Et c'est vrai que, voilà, moi je lui dirais effectivement aussi tenez bon, on sent qu'il y a quelque chose de fort qui les lie, qui les soutient et qui les fait avancer. Par contre, effectivement, dans cette situation, voilà, il n'y a que la ténacité et l'endurance qui vaincra.
Merci à vous, Anaëlle, de nous avoir appelés en direct.
Bon.
Merci à vous, Anaëlle.
Merci.
Très bonne journée. Et vous continuez bien sûr de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On parle des couples mixtes aujourd'hui. C'est très vaste comme expression. On donne la parole à Achille qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Achille.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 23 ans. Quelle est votre histoire?
Alors, moi, j'ai un oncle qui, lorsqu'il a voulu se marier, je précise d'abord qu'il est bamileke de l'ouest du Cameroun et sa fiancée est Ewondo du centre. Donc, du coup, lorsqu'il est arrivé au village pour présenter sa fiancée aux parents, Puis on m'a demandé de quelle est mienne. Lorsqu'il a répondu, on lui a dit, allez, impossible, mon gars, oublie, ça très rapidement, parce qu'on ne peut pas accepter cette relation.
Et alors, donc, vous nous parlez de votre oncle et de votre tante. Aujourd'hui, comment va ce couple?
Aujourd'hui, ils se portent à merveille. Ils ont fait de beaux enfants et tout. Et même la famille, qui était contre au départ, beaucoup d'opposants, entre guillemets, sont devenus partisans. Je vais dire.
Et ils ont reconnu s'être trompés ou pas?
Bon, vous savez qu'ici en Afrique, les parents, à demi-mot quand même, à demi-mot.
Les parents ont le dernier mot.
Oui. Bon, il n'y a pas qu'en Afrique.
Merci en tout cas, Achille, de nous avoir appelé. Je voudrais qu'on écoute aussi le témoignage de cette voisine qui a posté un message audio sur notre compte WhatsApp. 33 7 64 45 51 41. Anna est à Dakar.
Bonjour, moi je suis d'origine sénégalaise et mon mari il est français de par son père. Et grec de par sa mère. Cela fait 15 ans que nous sommes mariés et que tout se passe bien. Nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Moi, je suis musulmane, très pratiquante. Et mes enfants sont musulmans. Ils pratiquent, ils prient avec moi. J'aurai appris quelques versets. Nous fêtons les fêtes musulmanes, tout comme nous fêtons les fêtes orthodoxes. Parce qu'il est orthodoxe. Donc sur ce point, ça se fait naturellement. Et ce qui nous fait tenir, je pense que c'est la complicité. Toujours se dire la vérité et de ne laisser personne entre lui et moi. Personne. Si je vous dis personne. Mais il nous arrive de nous disputer parce qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose. Ou bien il a dit telle chose dont je ne suis pas d'accord. Heureusement que j'ai des beaux-parents sur qui je peux compter. Et qui rappellent à leur fils que ce qu'il a fait, que ce n'est pas comme ça. Sans pour autant nous dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais je pense que c'est le fait d'avoir des projets. Nous avons des projets, beaucoup de projets pour nos enfants. Nous voulons vraiment pousser nos enfants. Beaucoup de couples se séparent quand ils ont un enfant handicapé. Nous avons malheureusement un enfant qui a été diagnostiqué autiste. Mais ce handicap est notre force parce que cet enfant nous réunit. Cet enfant nous apporte beaucoup de bonheur. Cet enfant fait que cette famille de 6 personnes est unie. Chaque soir, on fait le bilan de notre journée, mon mari et moi. Et ça, je trouve ça formidable. Voilà.
Voilà, un couple uni dans l'altérité et réuni finalement par une grosse difficulté sur le chemin de l'histoire de ce couple, Peggy Capoeira.
Et la lutte va vraiment générer la force. Qu'il faut savoir, c'est, et ce qu'elle a très bien dit, c'est qu'effectivement, on va souvent demander beaucoup plus à des couples mixtes en termes de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment une question centrale sur la communication qui doit être vraiment accentuée, parce que pour évacuer toute interprétation de « il fait ça parce qu'il est comme ça, de tel pays », etc. C'est vraiment important, indispensable de renforcer la communication. Et donc ce dont il parlait, c'était effectivement de faire le bilan de leur journée. Et ça, c'est extrêmement important et ça permet de fluidifier ce qui se passe entre eux et justement d'être cohérent et fort ensemble.
Cécile Coquet-Mococo, on voit quand même beaucoup en filigrane des témoignages qu'il y a une place très importante à la prédiction de l'échec. C'est-à-dire, tu vas dans le mur, si tu suis cette histoire, si tu suis ton instinct amoureux, d'épouser la différence, l'altérité. Finalement, au nom de quoi annoncer une prédiction à un couple qui s'aime? Certes, peut-être que l'échec est au coin de la rue, mais quand on regarde qu'une union sur deux à Paris se termine en divorce ou en séparation, pourquoi pas aussi pour le couple mixte a le droit de se séparer aussi, non?
Bien entendu, parmi mes enquêtés en l'espace de 10 ans, il y en a qui se sont séparés, mais pour des motifs totalement banal, qui arrive à tous les couples, infidélité de monsieur ou de madame. Mon Dieu, si ça n'arrivait que dans les couples qui sont visiblement différents, ce serait presque une bonne nouvelle, si je peux dire. Mais je voudrais remercier l'auditrice qui vient d'appeler, parce que je pense qu'elle a apporté un message extrêmement important à Bourama, qui est qu'un socle de valeurs communes est vraiment, comme l'a rappelé aussi Peggy, quelque chose d'extrêmement solide sur lequel on peut bâtir. Et ma foi, le socle de valeurs Peul n'est pas si loin d'un socle de valeurs chrétiennes. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire comprendre aux parents, qui, bien entendu, partent du principe de protection de leur enfant, sont inquiets, c'est que les valeurs qui ont été transmises à ces enfants ont été un peu transformées, comme les abeilles transforment le pollen en miel. L'enfant a fait son miel et il ressort avec cette coloration, ce parfum. Et ce n'est pas pour rien si cet enfant choisit cette personne. C'est aussi le reflet des valeurs qui ont été assimilées. Donc, qu'il fasse confiance. Et c'est pas justement parce que l'épouse est musulmane qu'elle va se soumettre à son mari. Ça a été très bien expliqué par l'auditrice qui vient d'appeler.
Un garçon qui choisit une fille qui choisit un garçon. Il y a aussi des proximités de caractère, hein, bien évidemment, qui sont très loin de l'appartenance culturelle.
Tout à fait, mais même dans les appartenances culturelles, il y a des parallèles. Être l'aîné d'une fratrie, ça implique des responsabilités, qu'on soit d'origine française ou d'origine sénégalaise. On sait très très bien ce que ça signifie.
Rechercher les points communs. Justement, on va accueillir Daniel qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez vécu une histoire difficile, hein, je crois, avec une jeune fille d'une ethnie différente, d'une origine différente,
oui.
Y compris.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Bon, comme vous l'avez dit, je m'appelle Daniel, j'appelle de Benjerville, c'est près d'Abidjan. Et j'ai été avec une fille dans le passé, nous avons fait 3 ans. Et je souligne que moi, je suis d'origine guinéenne. Et la fille, elle est ivoirienne 100%, comme on le dit ici. Et moi, je suis né de parents guinéens, mais à Abidjan. Je suis né à Abidjan, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai fait toutes mes études. Et la fille, on a fait 3 ans de relation. Quand nous avons décidé d'aller voir les parents pour passer à une étape sérieuse, les parents ont carrément refusé. Et ils ont dit que leurs parents ne peuvent pas vivre avec un étranger. Ouais. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai même délégué, bon, chez nous en Afrique, il faut faire venir de grandes personnes, des gens âgés, tout et tout. J'ai déplacé les gens qu'il fallait déplacer. Ils ont refusé, ils disent que leur fille ne peut pas vivre avec un étranger. Or que moi, je suis né de parents guinéens d'Ivoire.
Oui, ça relance bien le débat sur l'ivoirité. Mais vous avez la même religion, tous les deux? Vous aviez la même religion?
Oui,
vous
n'êtes plus avec cette... elle est chrétienne protestante. Moi, je suis chrétien protestant, elle aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai regardé à la base. Je me suis dit, comme nous partageons la même foi, ça peut passer.
C'est aller très loin, parce que les parents de cette jeune fille ont tout fait pour vous décourager.
Oui, j'avais voulu forcer. Ils m'ont dit, si je force, je vais trouver la mort et ça sera mes risques et périls.
On vous a menacé de mort.
Mais les trois ans que vous avez passés ensemble avant de franchir le table des présentations, ils étaient au courant de la relation ou pas?
Il savait que la fille voyait quelqu'un et même la maman lui a dit, je sais que tu vois Daniel en cachette, mais si tu n'arrêtes pas, quelque chose va vous arriver. Je lui ai dit, écoute, les parents, c'est leur point de vue, mais l'être humain est changeant. Donc au fil du temps, ils vont changer, leur position va varier.
Ça n'a pas été le cas. Cécile,
pardonnez-moi, les pasteurs n'interviennent pas? Parce que menacer quelqu'un de mort, on sait ce que ça signifie, c'est pas très compatible avec des valeurs protestantes.
Est-ce que vous avez fait intervenir des chefs religieux?
Je vous dis que, oui, j'ai voulu faire intervenir les pasteurs, mais à la fin, je me suis dit que c'était pas la peine. Et tenez-vous bien, il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Le père de la fille a vécu 5 ans en France. En France, il était étranger. Il n'est pas français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que le père de la fille a 2 petits frères en Italie. Ils ont pris les photos de la fille pour envoyer en Italie sous prétexte qu'ils vont lui trouver un blanc. Mais le blanc, là, il n'est pas de leur ethnie, il n'est pas de leur origine. Mais comme si c'était un blanc, ça va passer. Et Penaï Traoré le disait tout à l'heure, quand c'est un blanc, il est toléré. Mais entre nous, noirs, du fait que nous ne sommes pas de la même ethnie ou bien des mêmes origines, ça crée des graissements dedans.
Alors que vous partagez la même religion. Finalement, vous êtes aujourd'hui heureux avec une autre femme et bien accepté dans votre belle famille.
Mais je vous assure, la fille, elle est ivoirienne et sa famille m'a accepté, ils m'ont adopté. Le jour où je suis allé pour qu'elle me présente à sa famille, on m'a déroulé un tapis rouge, je vous assure.
Tant mieux pour vous. Mais oui, bien sûr, tant mieux pour vous, Daniel. On sent évidemment beaucoup d'amertume dans cet échec et dans cette injustice. Merci en tout cas de nous avoir appelés en direct. Hein. De Benjerville, en Côte d'Ivoire. Je voudrais lire aussi le message d'Oumar, qui a 20 ans, qui est en terminale technique à N'Djamena, au Tchad. Il dit, moi je suis amoureux d'une fille tchadienne, arabe, Moi, je suis de l'ethnie Badjo. Mes parents sont de la même ethnie, mais ne s'entendent pas bien. Comment changer leur regard ? Là, on est finalement dans des conflits familiaux de clans.
Oui, c'est compliqué parce que comment réussir à faire changer le regard de parents qui ont des croyances, des représentations qui sont très posées, fixes. Changer leur regard, ça peut être la rencontre avec la personne qui va faire que ils vont l'appréhender en tant qu'être humain, mais après, quand il y a des questions de culture, de société, d'ethnie, c'est très compliqué de convaincre, en fait.
Oumar demande hein, comment changer le regard de la famille, de la jeune fille. Qu'est-ce qu'on dit à tous ces jeunes qui nous écrivent et qui nous disent... Parce qu'effectivement, on comprend bien que de passer outre, ça veut dire qu'on s'engage dans une épreuve de force, finalement. Alors, quelle est la solution ?
C'est vrai que c'est une épreuve de force, mais c'est aussi un pari sur les capacités du couple à réinventer les liens familiaux, excusez-moi. Mais ce qui est très fort dans les cultures africaines et qui n'existe pas vraiment en France ou dans d'autres pays d'Europe, c'est la présence d'intermédiaires. La palabre, c'est quelque chose qui a été très très bien étudié par Jean-Godefroy Bidima. La palabre en Afrique joue extrêmement bien son rôle de médiation.
Ça veut dire sortir du face-à-face des deux familles.
Mais voilà, bien sûr.
C'est ça, pour débloquer la situation.
Oui. On fait venir les anciens et voilà, les personnes qui ont une parole forte, qui sont écoutées dans la famille. Quand il y a des conflits comme ça, le couple sont obligés parfois de se retourner vers ces personnes-là pour venir faire la médiation, pour se faire accepter. Généralement, c'est toléré. Voilà, quand ces personnes s'en mêlent, on peut plus s'y opposer. Donc, les familles finissent par accepter les paroles qui sont données. On fait même des promesses parfois lors de ces palabres-là pour que voilà, les deux familles puissent s'unir. Et ouais, quand il y a encore des problèmes, on fait appeler encore ces personnes pour venir faire la médiation. Ouais. Donc, parfois, c'est un point positif si certains couples qui n'arrivent pas à se faire accepter dans les familles à adopter cette méthode-là.
Merci en tout cas à vous toutes. Vous avez été nombreux à souhaiter nous contacter, à envoyer des messages. Cécile Kokemo-Koko, vous êtes professeure de civilisation américaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et vous avez publié en anglais un livre qui est pour le moment non traduit, me semble-t-il, et qui s'appelle Love Under the Skin, Interracial Marriage in the American South and France, puisque vous avez donc travaillé sur des familles en France et aux États-Unis, en Alabama, un état du Sud. Merci à vous. Peggy Capperet, psychologue à Paris, spécialisée en psychologie interculturelle. Et merci à vous, Penaï Traoré.
Merci.
À très bientôt chez 7 milliards de voisins. On se quitte avec de la musique, qui est la plus grande source multiculturelle au monde, d'Alatsa et Diabel Sissoko.
Bale boita kono lo janjanta ni te pakmata alai ala moy mi mala moy be kale lo janjanta mi mala boy be kana lo janjanta ni ke pakmata mi mala boy dem be ni mi so se se mata ala ka mun ke ye yi sale tantu te hala tantu yo ni mara tantu yi se sa tanu tantu al hala moy be
milliards de voisins, c'est fini.
Tout à l'heure sur RFI.